Et là, je parlais de. Là, on faisait allusion à Gente del Pueblo, un groupe de Sévillanes,
Sí.
donc qui était très lié au Parti communiste.
Sí. No, no son, nunca han sido del Partido Comunista. Eran de un grupo comunista que era el Partido del Trabajo de España, ¿eh? Y del Sindicato de Obreros del Campo. Y ahora son del sindicato más izquierdista que hay en Andalucía, que es el SAT.
Que es el SAT,
SAT, el
sí.
SAT.
Oui, en
Pero
fait, Gente.
ellos han cantado sevillanas siempre. No, no han cantado flamenco. Pero aquí en el libro citamos algunas letras de ellos,
Sí, por
¿eh?
eso.
Algunas letras de ellos dedicadas a algunos chicos que mató la Guardia Civil durante la transición.
Oui, au sujet de Gente del Pueblo, déjà, ils n'ont jamais été liés au PC espagnol, ils étaient liés à un parti plus maoïste qui était le Parti du Travail espagnol. Et là, maintenant, ils sont très proches du syndicat agricole qui est le plus radical, qui est le SAT, en Andalousie. Et autre chose, ils chantent pas exactement du flamenco, ils chantent des sévillanes. Même s'ils sont cités dans le livre, parce qu'ils ont fait pas mal de paroles sur des gens qui ont été assassinés par des jeunes qui ont été assassinés par la garde civile.
Sí. Sí, ellos cantaron a la muerte de un chaval en Almería que lo asesinó a la Guardia Civil por la espalda cuando estaba haciendo una pintada, a otro chico que murió en Fuenterrabía, en el País Vasco, también en una manifestación. O sea, ellos estaban muy comprometidos y tuvieron problemas. Y al líder del grupo lo detuvo la Guardia Civil y estuvo, no tuvo problemas, ¿eh?
Oui, par exemple, ils ont fait une chanson sur un petit jeune qui a été tué dans le dos par les flics à Almeria pendant qu'il écrivait sur un mur, sur un autre qui a été flingué à Fontarabile au Pays Basque lors d'une manif. Et le leader du groupe a été lui-même a connu la prison, a été détenu par la garde civile. Il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé moi, dans ce livre, c'est que pour la première fois, on arrive à m'expliquer historiquement les guerres carlistes d'une manière à peu près simple. Una cosa que a mí me encantó en este libro es que por la primera vez, uno me explica algo de las guerras carlistas, de la guerra de sucesión, pero de un modo sencillo. Se entiende un poco quién es quién. Y tú pones la tradición del canto jondo a este momento, que eso no lo sabía, que se había tratado de la guerra, de la intervención de los franceses y también de eso.
Claro, la intervención de los franceses, ahí explico que hay dos intervenciones de los franceses en el siglo XIX, a una. La de las tropas napoleónicas que no consiguen entrar en Cádiz, se le canta por alegrías, ¿eh? Napoleón Bonaparte con sus escoltas no llegó ni a la playa de la Victoria, en plan de chirigotas, claro, porque estaba la marina británica pegando zambombazos y no podían entrar, por el istmo, que une la isla de Cádiz con San Fernando. Y a la segunda intervención, que son los 100.000 hijos de San Luis, que era la OTAN de la época, por decirlo de alguna manera, gracias a la traición de Fernando VII de Borbón, del rey felón, como se le llama, antecesor del que tenemos ahora, a eso se le canta por seguidillas. No lo permitáis, no lo permitáis que los franceses que están en la isla se metan en Cádiz. Ahora me he extendido mucho, ¿no?
Si, non, mais, non, par exemple, il y a des chants qui remontent aux deux interventions françaises. Il y a eu la première intervention française, celle des guerres de Napoléon Bonaparte, quoi, Napoléon Ier, qui a été stoppé devant Cadiz, qui n'est jamais rentré dans Cadiz, particulièrement parce que la marine anglaise faisait tout ce qu'elle pouvait pour bombarder l'isthme merci de San Fernando. Et après, il y a l'autre intervention française qui se passe, je crois, sous Louis-Philippe, si je ne m'abuse, et qui est.
Cent mille fils.
Ouais, qui est permise par le roi Félon, Fernand VII de Bourbon, qui est lui-même l'ancêtre de celui qui règne actuellement en Espagne. Et là, c'est des séguidillas où on chante non, ne permet pas ça, ne permet pas ça, roi Félon.
Sí, claro. Hay una época que se llama el trienio liberal, del 20 al 23, y cuando entran comandadas por los franceses, los 100.000 hijos de San Luis, acaban con el trienio liberal. Y al general Rafael de Riego, que era un héroe liberal, lo ahorcan en Madrid. Y hay seguidillas que hablan de eso. Salgan los santitos de San Juan de Dios a pedir limosna para el entierro de Riego, que va de por Dios, y más.
Et à l'époque de cette deuxième intervention, il y a donc ce qu'on appelle le trio libéral, qui sont absolument écrabouillés par l'intervention française et les 5000 fils de Saint-Louis. Et il y a en particulier ce leader libéral, qui est Rafael Guerrero, qui est lui-même pendu sur la place publique à Madrid, et sur lesquels il y a des coplas. Comment se piste ça, ce coplas? ¿Son todavía se cantan?
No, se cantan todavía. O sea, Mairena, Antonio Mairena las tiene grabadas y ahora las sigue cantando, por ejemplo, Canela de San Roque.
Et ce sont des chansons donc du 19e qui se chantent toujours. Mairena les a chantées et maintenant c'est Canela de San Roque qui les chante. Donc ça reste, c'est partie de la mémoire populaire.
Sí. Mairena era un sabio y Mairena era progresista, era un hombre a su manera, claro, un cantador y gitano, pues era de izquierdas a su manera, pero sufrió la represión franquista. De Simón, en el libro cuento cómo simularon un fusilamiento, lo sacaron y lo llevaron al cementerio de San Fernando en Sevilla y dispararon al aire y tal, y se desmayó, no lo mataron afortunadamente.
Oui, de toute façon, Mairena, qui a remis ses airs en plus à l'ordre du jour, c'était un progressiste. Alors, évidemment, c'était un type de gauche et de progressiste à sa manière. C'était un chanteur de flamenco, un gitan, mais il a morflé la répression du régime. Ils lui ont quand même fait un simulacre d'exécution. Ils l'ont trimballé jusqu'au, c'est raconté dans le bouquin, ils l'ont trimballé jusqu'au cimetière San Fernando, où au lieu de lui tirer dans la tête, ils ont tiré en l'air. Et lui, il est resté évanoui. Mais c'est le genre de choses.
Il y a un disque que possiblement se peut ahora por Spotify o por lo que sea, yo no sé, un disco de Antonio Mairena que son los cantes de Cádiz, en el que canta esa seguirilla con las letras de Riego y no lo permitáis que entren los franceses en Cádiz y todo eso.
De toute façon, ces chansons dont on parle au 19e, il y a un disque de Mairena qui s'appelle Cantos de Cádiz, qui doit certainement se trouver sur internet de nos jours, mais où il chante toutes ces chansons du moment de l'intervention.
Il y a quelques personnages qui apparaissent quand même particulièrement dans le livre, hormis Antonio de Mairena. On a évoqué un petit peu José Meneses aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, le flamenco est encore en évolution, ou est-ce que tu penses qu'on est passé à autre chose? Vamos a decir que ahora el flamenco ya está evolucionando.
¿Todavía evoluciona?
¿Con evolución o estamos en otra época?
Estamos en otra época, claro. Ya el flamenco no se vive como se vivía antes. Antes trabajaban en los tablaos todos los artistas y después se juntaban y lo que habían ganado esa noche se lo gastaban tomándose unas botellas de vino y un pollo. Y se cantaban y se bailaban unos a otros y se enriquecían mutuamente. Ese contacto entre artistas ya no hay. Ahora se aprende sobre todo a cantar en disco o en academia.
Oui, on vit une autre époque, parce que de toute façon on débute plus dans les tablas ou dans ces bistrots, et à l'époque les gens ils gagnaient 3 sous là-dedans et ils se la passaient ensuite ils passaient le temps à boire des coups de vin, à bouffer du poulet et à dépenser en une soirée tout ce qu'ils avaient gagné, et c'est-à-dire qu'ils s'enrichissaient mutuellement les uns les autres. Maintenant les gens ils commencent directement par les disques ou par les écoles de chant, quoi.
Sí, ça a cambiado, pero de todas maneras no hay que volverse loco tampoco, porque ha cambiado la sociedad. Lo que yo digo, en España está desapareciendo el lince ibérico, estamos desapareciendo los periodistas.
Oui, évidemment, on est passé à une autre époque, mais bon, il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond, parce que le monde a cavalé de tous côtés. En Espagne, il y a plein de choses qui sont en train de disparaître, y compris nous autres, les journalistes.
Donc, et toi, tu as eu une longue carrière de journaliste, donc tu as rencontré tous ces gens grâce à ton poste de directeur de publication ou de journaliste pour El Mundo. Mais tu avais un truc qui était en fait de demander la dernière... le dernier créneau horaire avant le déjeuner, pourquoi tu vas nous expliquer. Tu tienes un truco de tu vida de periodista, de preguntar para el último antes del almuerzo.
Sí, claro. Cuando escribes en un diario, como yo llevo 30 años escribiendo en el diario El Mundo, que es uno de los más importantes, pues si van a presentar un espectáculo o un disco, pues hacer una ronda de entrevistas. Y yo ya como zorro viejo, digo, yo quiero el último turno de la mañana.
¿Y eso por qué?
Pues porque ya no viene nadie detrás, el artista presionándote, el artista está más relajado Y cuando ya le has hecho las preguntas de rigor, las que sirven para escribir dos folios sobre el espectáculo o el disco, te vas a la barra, te tomas una cerveza y ahí es donde empieza la entrevista. Y entonces yo siempre he sido muy cuidadoso para eso, lo he grabado todo y luego lo he transcrito. Y de todas esas colas, que en realidad no son colas, son el 80% de la entrevista, es de donde he sacado el libro.
Moi, par exemple, oui, effectivement, j'avais un truc, j'ai fait des papiers dans un quotidien, pendant 30 ans dans El Mundo, qui est un des plus grands quotidiens d'Espagne. Et s'il y avait un spectacle, une conférence de presse, une interview pour une sortie de leur disque, moi, je voulais toujours faire, effectivement, le dernier tour avant l'heure de manger, qui est quand même vers 15h en Espagne. Pourquoi ? Parce que le gars est beaucoup plus relax, il n'y a personne derrière. Et du coup, tu fais ton interview, tu fais tes deux papiers, là, ça c'est 20 minutes, et après, tu vas au bar boire un verre avec le type. Et c'est là que commence le véritable travail. Et tout ce que j'ai enregistré à ce moment-là, tout ce qui est dans le bouquin, ça vient de ce moment-là où on est en train de boire un coup.
Yo recuerdo, en una de estas circunstancias, justo a última hora ya de la mañana, con José Mercé, no recuerdo qué disco era exactamente el que estaba presentando, y estábamos en el Hotel Suecia, que es donde paró el Che Guevara cuando vino a Madrid. ¿Eh? y se lo digo a Mercedes de mi edad, más o menos. Y le digo, y tú en el 76, él con, pues eso, pues con poco más de 20 o 21 años, grabó un disco de Caballero Bonal con letras sobre la autonomía andaluza, que era cuando empezaba a funcionar todo eso, ¿no? Y le digo, así en broma, y un gitanito de Jerez como tú sabía lo que estaba cantando. ¿Y sabes lo que me dijo?
No.
Es que ya llevaba 4 años trabajando con Gades. Fíjate.
Et, par exemple, au bar comme ça, j'ai un souvenir d'un entretien avec José Mercé, je ne me rappelle plus quel disque. Donc c'était à l'hôtel Suecia, dans cet hôtel Suecia, là où s'était arrêté Che Guevara quand il était venu à Madrid. Je lui ai dit, on était en 76, lui il avait 21 ans, et il avait chanté déjà des paroles sur l'autonomie andalouse, tout ce genre de choses. Et moi je lui ai dit, il y a un gitan dans ton genre, tu sais au moins ce que tu chantais? Et l'autre, il me répond, ben ça, regarde, ça fait 4 ans que je travaille avec Gades, déjà.
Sí. Y me dice, Gades, la primera vez que vine yo a París, dice Mercé, con la compañía, estaba ya aquí Antonio en París. Uh-huh. Y entonces, Gades vivía dentro del teatro y dormía dentro del teatro, para familiarizarse con los espacios y saber por dónde sacar a uno, por dónde meter al otro, tal, ese tipo de cosas. Y entonces los llevan allí, a ellos, las maletas al hotel, y después de ver el espacio, saber dónde los lleva Gades, a toda la compañía, al cine, a ver Morir en Madrid de Frédéric Rossif.
Et il racontait que quand ils avaient été en tournée à Paris à l'époque avec Madrid, Mercé était donc faisait partie de la compagnie de Gades. Gades, lui, il restait dans le théâtre, il dormait dans le théâtre pour se familiariser avec le décor, pour savoir où mettre les uns, où mettre les autres. Et dès qu'ils avaient fini la répète, il a pris toute la compagnie. Et qu'est-ce qu'il les a amenés voir? Le premier truc qu'il les a amenés voir, c'est le film de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, qui était donc forcément interdit en Espagne à l'époque.
Se estrenó ya en el año 80 o
sí. Sí. Oui, le genre de film qui est sorti dans les années 80 en Espagne seulement. Ouais.
Tu prépares la suite du livre de l'histoire sociale du flamenco, que es la segunda parte está trabajando en la
sí.
Un libro que va a seguir este.
Sí, estábamos La pena es que el hilo conductor de la segunda parte, que lo íbamos a titular, y yo no sé si ahora conservaremos el título o cómo lo haremos, lo íbamos a titular el flamenco del duende a la globalización, y el hilo conductor iba a ser en Enrique de Melchor, el guitarrista, que era una mente privilegiada, aparte de ser un guitarrista extraordinario, una mente privilegiada, con una memoria, con una capacidad de análisis, con una gracia desconocido en ese aspecto, porque la gente piensa que era muy soso, que no se relacionaba con nadie. Era un tipo con un talento extraordinario, que sabía muchísimo de fútbol, de boxeo, de cine, de las cosas más increíbles, ¿no? Y estábamos montándolo con él, pero como dice mi cuñado, tuvo la mala ocurrencia de morirse con 61 años, así de un día para otro.
Ouais, donc oui, alors la deuxième partie, j'y suis en train de travailler. Alors je ne sais pas si le titre va rester, mais on voulait l'appeler du Duende, donc du génie du flamenco jusqu'à la mondialisation. Et le problème, c'est que je bossais avec Enrico de Melchior, qui était un gars qu'on prenait pour quelqu'un, pour un ours, quoi, en quelque sorte, mais qui était un type super cultivé, qui savait plein de choses, et qui, comme dit mon beau-frère, a eu le mauvais goût de mourir à 61 ans.